Donc, je m'appelle Frédéric Sultan et la question de comment me présenter, le plus simple, c'est de dire que je suis membre d'une organisation qui s'appelle Remix the Commons ou Remix Bien Commun, qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, en 2019, donc oui, c'est pile, presque 10 ans, puisque c'est une organisation qui est née, qui s'est constituée en association l'année dernière, donc ça c'est très récent. Mais qui est né à la suite du Forum social mondial de 2009 à Belém, où avaient eu lieu deux choses. D'une part, le premier forum Sciences et Démocratie, où la question des communs, et notamment à partir des communs de la connaissance, avait joué un rôle assez important. Et puis, un autre événement qui était l'adoption par les membres du Conseil. Du forum social d'un manifeste qui s'appelle le manifeste pour la récupération des biens communs. Et chaque mot est important dans ce titre, puisque c'est récupération, qui a un certain sens, je vais y revenir, et bien commun. Donc là, on voit 10 ans après que, en France en tout cas, on a tendance à parler maintenant plutôt de commun que de bien commun, et que tout le jeu sur le vocabulaire fait partie de, un petit peu de ce que disait Léa tout à l'heure, de la manière dont se constitue ou se perçoit le travail des militants autour de la notion de commun, puis pas que des militants d'ailleurs, des chercheurs aussi. Pour rebondir un petit peu quand même sur ce qui vient d'être dit, moi je pense que... Alors, je pourrais compléter cette présentation en disant que Mon parcours à moi, c'est un parcours d'acteur de l'éducation populaire qui a travaillé avec des jeunes dans les quartiers qu'on dit populaires aujourd'hui, avec des enfants, sur le développement social des quartiers, sur des questions comme ça dans les années 80, donc je ne suis pas tout jeune, sur les questions de culture scientifique et technique ensuite, et puis sur ce qui m'a amené à la question des communs, qui est en fait Internet et... la question du numérique et de l'accès au numérique pour les populations issues des quartiers populaires. Pour vous donner une idée précise, la question que je me posais à ce moment-là était tout simplement en recevant un discours qui me dit Internet c'est magnifique, c'est quelque chose qui va permettre de vous connecter avec le monde entier. La question que je me posais, c'était, ok, mais au fond, les jeunes avec lesquels je travaille, les habitants avec lesquels je travaille ou avec lesquels je partage un quartier, qu'est-ce que ça veut dire pour eux se connecter avec le monde entier? On n'a pas forcément besoin de se connecter avec le monde entier. Peut-être que si on peut déjà se connecter avec les gens avec lesquels on est autour de soi, c'est intéressant. Et puis ensuite, comment se connecter avec le monde entier de manière à ce que ça prenne un sens politique et pas simplement quelque chose de l'ordre de la technologie ou d'un fantasme d'un fantasme technique. Voilà, ce qui veut dire aussi que moi je rebondis sur le terme d'imagination, je ne sais plus qui a prononcé le terme, Pierre, à la fois sur le terme d'imagination et aussi sur la question de la normativité des communs. Je pense que c'est une question très importante. Alors, imagination, moi, je serais très... Enfin, la question que je me pose, au fond, c'est comment est-ce qu'on peut activer cette imagination en considérant qu'on a deux niveaux, deux champs, deux sphères dans lesquelles cette imagination elle doit être activée. Alors, avec des pratiques d'éducation populaire, avec des choses qui relèvent probablement de ça, et je ne reviens pas sur une définition de ce terme-là pour l'instant, mais en touchant deux sphères. Pour moi, il y a une distinction à faire entre quelque chose qui est de l'ordre du tactique et quelque chose qui est de l'ordre du stratégique. C'est-à-dire que on a effectivement, lorsqu'on active des pratiques de commoning ou des pratiques de mise en commun, tendance à confondre, je crois, ces deux niveaux-là. Et je pense que c'est vraiment c'est une question à se poser quand on, quand on fait, comme moi, quand on s'inscrit dans quelque chose qu'on commence à appeler aujourd'hui le mouvement des communs. Cette distinction-là entre tactique et stratégie, elle est, pour moi, elle est très importante parce qu'elle permet ou non de sortir d'un certain carcan qui nous donne à voir les communs d'une certaine manière. Je pense que tout à l'heure, par exemple, dans les échanges, les quelques questions qui ont été posées, on parlait des communs comme de quelque chose qui est finalement qui existe. On disait quand on se retrouve dans tel commun ou quand on se retrouve engagé, enfin en tout cas, on parlait de certaines choses. Cette vision-là, en tant que telle, de mon point de vue, elle relève certainement d'une idéologie et d'un carcan qui est tout à fait prégnant et qui nous occupe aujourd'hui et qui fait qu'effectivement, on regarde les communs globaux, les biens communs globaux, ou les biens communs de l'humanité, d'une certaine manière, comme d'abord des biens qui doivent être gérés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut interroger parce qu'on a... On a énormément de mal à sortir en fait de cette logique-là et du coup à pouvoir réfléchir ou agir de manière un petit peu différente. Dans mon exposé, comme on dit, je vais m'intéresser en fait. Je vais effectivement tourner un petit peu autour de la question des biens communs de l'humanité, puis de l'idée des communs. Et puis, je ne vais pas tant m'intéresser aux biens communs, qu'ils soient de l'humanité, mondiaux ou pas, mais plutôt à l'idée des communs, alors du commun, des communs, finalement à la question du passage à l'échelle. En me demandant quels sont les passages à l'échelle qui m'intéressent. Moi, en tant que militant des communs aujourd'hui, puisque effectivement, ces passages à l'échelle sont probablement pas, ce que disait Pierre, le passage à l'échelle au sens de la taille du commun. C'est pas ça qui m'intéresse. Je ne dis pas que ça peut pas être un problème en soi, hein, mais moi, c'est pas ce problème-là auquel je vais m'attacher. Alors, si je reviens. Si je reviens donc à la question des biens communs de l'humanité, il est clair qu'une très grande partie des actions menées pour la transition, pour une transition écologique et sociale, elles sont menées au nom, souvent au nom d'une protection des biens communs de l'humanité, hein, au sens où ça a été dit tout à l'heure, c'est de la protection de la vie, de la nature, des générations futures, etc. C'est bien, on se projette sur cette idée-là et on utilise cette idée-là pour motiver un certain nombre d'actions qui sont des actions de transition sociale et écologique. Dans cette, le problème, c'est que dans cette... un problème, en tout cas pour moi, c'est que dans cette expression « bien commun de l'humanité », l'humanité, elle renvoie à une échelle globale qui est l'échelle à laquelle on est incapable de gérer ça entre personnes. En tout cas, on doit forcément en passer par des instances qui sont celles de l'État ou qui sont celles du multilatéralisme, de l'interétatique, etc. Et que c'est quelque chose qui... presque par nature, ne peut pas être géré, ne peut pas être envisagé comme un commun, comme des communs, au sens où moi, je vais peut-être l'entendre. Et dans ce contexte-là, je dirais presque que la notion de commun ou la notion de bien commun, elle est presque métaphorique, elle n'est pas effective au sens où on l'entend quand on parle du projet de... un projet politique et de commun. L'idée de commun, alors bien sûr, l'idée de commun, elle renvoie à l'idée de petite communauté bienveillante, d'empathie, d'une certaine prétention à produire, fabriquer, créer, partager des biens communs, comme si ça c'était une finalité en soi. Ça, c'est un projet qui, moi, m'interroge beaucoup sur le. Qui est le projet porté par tout un ensemble de militants qui sont engagés, qui se réclament de la question des communs. Je pense qu'il faut l'interroger. Paradoxalement, l'idée de si on parle de cette approche-là, cette idée-là, elle semble en même temps avoir du sens pour des gens qui vivent dans une société qui n'est pas du tout celle de l'époque médiévale, ce que tu décrivais tout à l'heure. C'est que c'est une société qui est une société de masse, individualisée, multiculturelle, avec des styles de vie qui sont très différents, où il y a une très grande complexité de questions techniques, par exemple, qui dépassent largement ce que tu décrivais très bien tout à l'heure, Pierre, la vie telle qu'on peut l'envisager dans des petites communautés, justement. Et en même temps, cette société dans laquelle on vit et qui se réclame parfois des communs, pour rien au monde, ces personnes-là, on accepterait de perdre à la fois la liberté individuelle et l'indépendance qu'on peut avoir pour se plier à la vie, au mode de vie qui serait celui du retour à la communauté. Ça c'est un peu ce qu'il y a derrière l'idée des communs. Un autre point, c'est que l'idée des communs et l'appel à la récupération des biens communs de 2009 portent aussi l'idée d'engagement et l'idée de défendre un certain nombre de droits. Donc on voit que derrière la notion de commun, on va avoir tout un ensemble d'idées, disons une grande variété d'approches qui peuvent s'opposer, puisque je disais moi-même, je m'oppose à certaines de celles que je viens de décrire là, et qui sont. Et celle-ci, ce que ça montre, c'est que finalement, la notion de commun, elle est parfois utilisée par un certain nombre de personnes à leur propre fin, mais avec quand même l'idée qu'on va. Favoriser une dynamique d'action et être dans un engagement plutôt que dans une simple délégation. Ça, c'est quelque chose qui est probablement partagé. La question, et c'est ce qui a été soulevé par Léa tout à l'heure, c'est que la nature de l'engagement dans les communs, enfin, si je vous ai fait une espèce de portrait large des communeurs en général, en fait, la nature de l'engagement dans les communs, c'est quelque chose qui reste un angle mort. C'est-à-dire qu'on va systématiquement étudier les biens communs, leur mode de gestion, leur modalité de gouvernance, leur nature, comment est-ce que ça peut porter ou pas. Mais l'engagement, les modalités de l'engagement et la nature même des communeurs et de leur engagement, ça reste quelque chose qui est relativement peu travaillé jusqu'à présent. Ce qui pour moi a été particulièrement révélé lorsqu'on s'est retrouvé, par exemple, à organiser l'Assemblée européenne des communs avec des rencontres qui ont commencé en fin 2016 et en 2017. Pour essayer de mettre en place des réseaux à l'échelle européenne de solidarité, de coordination de militants autour de cette notion-là. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait deux grandes familles de commoners, si je peux dire, qui étaient celles de... travaillent plutôt sur des pratiques de plaidoyer, et puis celles qui travaillent plutôt sur des pratiques de faire, d'activité, d'action, se regardent aujourd'hui en chaîne faïence parce qu'elles ont le plus grand mal à s'accorder s'accorder au sens politique, c'est-à-dire à se construire des stratégies communes et à faire en sorte qu'on puisse avancer sur, à une prise en compte de la notion de tout, de commun, à la fois, enfin, dans les différentes échelles du politique aujourd'hui, par exemple. L'usage de, du coup, l'usage de la notion de commun est rendu, enfin, cette situation-là, d'une certaine manière, elle permet un usage de la notion de commun qui est parfois qui relève presque de, d'une forme de commons washing, ou en tout cas un réaccaparement de la notion même de commun dans tout un ensemble de sphères qui sont de l'ordre du politique. Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez dans la sphère politique, vous voyez que la notion de commun, elle est récupérée, ou en tout cas réutilisée lors des élections. Si vous regardez Paris aujourd'hui, vous avez une situation dans laquelle il y a, je crois, quatre listes différentes qui se réclament du commun, des biens communs, et qui s'opposent les unes aux autres. C'est-à-dire que ça devient l'objet d'une concurrence. Le récit des communs devient l'objet d'une concurrence politique très, très clairement. On est assez loin de la démarche de Barcelone que décrivait Pierre tout à l'heure. Un autre exemple de ce que j'appellerais, moi, une sorte d'accaparement de la notion de commun, c'est quand il y a des mécanismes comme ceux de l'ESS qui vont être réutilisés au nom du commun, au nom des communs, pour mettre en place des dispositifs de gestion ou d'élaboration des politiques publiques. Aujourd'hui, en France, j'ai deux exemples que je peux vous donner. L'un, c'est la MEDNUM, qui est une SIC. Donc, une SIC, c'est une société coopérative qui intègre un acteur autre que celui qu'on trouve habituellement dans les coopératives, qui soit le consommateur, soit le producteur, qui va être les personnes concernées, les parties prenantes du projet. Et on peut y retrouver, par exemple, la puissance publique, on peut y retrouver des groupes d'habitants, on peut y retrouver un certain nombre d'acteurs. La MEDNUM est une organisation qui a pris la forme d'une SIC et qui est en fait un espace dans lequel se construit la politique de médiation autour du numérique au niveau national. C'est-à-dire qu'on a un espace dans lequel se retrouvent l'ensemble des acteurs du numérique qui vont travailler sur la médiation et qui vont, avec l'État, lui-même présent, pouvoir élaborer à la fois, gérer les éléments de politique publique, gérer les financements, gérer les programmes de manière collective. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand même dans un espace comme celui-là, d'une part, il y a un certain déséquilibre entre les acteurs, c'est que vous n'avez pas la même place et le même rôle, même si statutairement c'est le cas, si vous êtes un médiateur social dans un quartier ou si vous êtes un représentant de l'État ou même un représentant d'une entreprise, d'une des fondations de banque, par exemple, qui vient financer aujourd'hui ces programmes de médiation numérique. Et donc, ces décalages-là sont importants. Et puis, la deuxième question que ça pose, c'est que ça veut dire qu'on a internalisé dans des structures comme celle-là des fonctions qui sont les fonctions de l'État, d'établir des politiques publiques, de les discuter dans des enceintes qui sont des enceintes de la démocratie, qui aujourd'hui sont finalement dépossédées de ces problèmes-là, d'une certaine manière. Un autre exemple que je voudrais citer, qui est aussi parlant, c'est celui du travail que lance actuellement le Commissariat général à l'égalité des territoires, lorsque, à travers un programme de recherche-action, il vise à, et là je le cite, il vise à soutenir la mise en réseau, le partage d'expérience et la réflexion collective autour des praticiens, praticiennes des communs, en accueillant le regard de chercheurs et de juristes et de praticiens, praticiennes du droit familier des communs au sujet des espaces occupés, des espaces des Fab Labs, des tiers-lieux ou des espaces artistiques occupés. Ce qui veut dire que là aussi, on a un réemploi de la question des communs, des notions de commoning, par une instance étatique qui va en fait en faire un outil soit un outil de langage, au pire, je dirais, soit au mieux un outil de réflexion sur les politiques publiques, mais qui, du coup, va aussi créer une nouvelle frontière qui est celle de ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur de ce type de dispositif.